Au musée Fabre, l'art à ses mécènes. La fondation d'entreprise du musée Fabre rassemble une vingtaine de sociétés. Les salles d'exposition temporaires ont pris le nom de Gérard Maurice, son président fondateur, disparu l'an dernier.
Au musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, pour la première fois depuis sa réouverture en 2007, les salles d'exposition temporaires sont vides et d'une blancheur immaculée. Les cloisons ont été retirées avant réfection et au sol, le plateau de 900 mètres carrés a été changé. Un toilettage qui préfigure l'exposition événement qui sera visible dès le 20 juin et consacré à l'âge d'or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano. Pour autant, cet espace privilégié à l'intérieur du musée a désormais un nom. Ce sont les salles Gérard Maurice. Le baptême a eu lieu le 24 février lors d'un dévoilement de plaques à la mémoire du défunt président de la fondation d'entreprise du musée Fabre, qui a donc présidé de 2007 à 2014, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de sociétés.
Si la métropole impulse une politique culturelle, elle ne peut agir seule lorsqu'il faut se positionner sur le marché de l'art afin de réaliser des acquisitions pour compléter l'existant. À chaque fois que j'ai alerté Gérard Maurice et les acteurs économiques qu'il avait su fédérer autour de lui, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait preuve de réactivité pour enrichir nos collections, témoigne Michel Hilaire, le directeur du musée Fabre. C'est aujourd'hui Max Ponseiller, le président du groupe OC Santé, qui a pris la succession de Gérard Maurice. 25 œuvres ont été achetées grâce au mécénat, dont le polyptyque à l'acrylique sur toile de Pierre Soulages ou encore le martyr de Sainte-Agathe d'Andrea Vaccaro, un des peintres de l'école napolitaine qui sera exposé cet été au musée Fabre. Le mécénat est inscrit dans l'histoire même du musée depuis son origine à travers la personnalité de son fondateur, François-Xavier Fabre. Plus près de nous, Pierre Soulages a poursuivi cette tradition. Les acteurs économiques du territoire prennent aujourd'hui toute leur part dans le rayonnement de cet établissement culturel métropolitain, note Bernard Travier, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué à la culture. Gérard Maurice n'est plus là, mais l'action exemplaire qu'il a initiée va continuer avec d'autres.
Retrouvez cette inauguration et les 22 sociétés qui font partie de la fondation d'entreprise du musée sur montpellier3m.fr ou bien sur museefabre.montpellier3m.fr. Du sport, 9 arènes pour un trophée. À partir du 1er mai, le trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole promet du grand spectacle dans 9 arènes du territoire. Rasteurs professionnels et taureaux des meilleures manades camarguaises feront monter l'ambiance en piste.
Capellado, cocarde, tourneur, crochet, un vocabulaire d'aficionados méconnu par la plupart des habitants du territoire. Pour y remédier, Jean-Luc Messonnier, ancien rasteur, lançait il y a 6 ans la fête du taureau dans sa commune de Bayargues, en partenariat avec l'agglomération. Lors de cette journée programmée le 5 juin, le public néophyte possède les clés pour mieux comprendre le rituel des courses camarguaises. Ce spectacle sportif est régi par des règlements et une éthique indispensable à la bonne tenue du face-à-face entre le rasteur et le taureau. Rendre plus accessible cette tradition bien vivante et lui redonner ses lettres de noblesse, c'est l'objectif du nouveau trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole créé cette saison.
De Saint-Geniès-des-Mourgues à Vendargues, 9 courses dans 9 arènes sont programmées de mai à novembre. Ce trophée s'inscrit dans le calendrier annuel des championnats de l'avenir et des As de la Fédération française de course camarguaise. Des règles communes et un jury composé de grands noms de la Bouvine conduiront ces courses organisées par les clubs taurins des communes avec le soutien de la métropole. En plus des points habituels octroyés par le président de la course, nous attribuerons des points de bonification en fonction de la qualité du raset, du geste du rasteur, précise le pérolien Jacky Siméon, ancien rasteur émérite. Nous tenons à récompenser la manière plus que l'efficacité pour remettre le taureau en vedette comme il se doit. Arlésienne, peignasse, chevaux, tout le folklore camarguais sera également au rendez-vous pour faire vivre au public un beau spectacle sur la piste.
Nous souhaitons faire revenir du public dans les arènes, des jeunes, des familles, des nouveaux arrivants à qui il faut donner envie de s'approprier cette culture, d'en parler autour d'eux. Ils sont nos nouveaux ambassadeurs, explique Jean-Luc Messonnier, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, chargé des sports et des traditions sportives. Notre métropole est faite d'un équilibre entre l'urbain et le rural. Il est essentiel de maintenir sur notre territoire ce patrimoine culturel et sportif unique. Au monde. Ce nouveau trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole promet de belles actions, de l'engagement de part et d'autre. Les notes de Carmen n'ont pas fini de retentir dans les arènes de la métropole.
Quelques dates à retenir, donc le calendrier de ces manifestations. Le 1er mai, ce sera à Saint-Geniès-des-Mourgues.
Le 16 mai à Castries.
Le 30 mai à Bayargues.
Le 13 juin à Villeneuve-les-Maglones.
Le 14 juillet à Pérols.
Le 18 août au Cresse.
Le 22 août à Latte.
Le 29 août à Saint-Georges-d'Orque.
Et le 7 novembre à Vendargues. Et les tarifs seront réduits avec les cartes Passe Aglo ou Passe Métropole.
Et vous pouvez en savoir plus en allant sur internet ffcc.info ou alors sur montpellier3m.fr.
Transport, l'accessibilité, une nécessaire solidarité. 10 ans après la loi du 11 février 2005, 100% des tramways et bus de la métropole sont accessibles. Un travail partenarial efficace mené avec les associations de personnes handicapées. La collectivité poursuit son engagement en aménageant au fur et à mesure les arrêts de bus sur tout le territoire.
Depuis la mise en service de la ligne 1 de tramway, Montpellier-Méditerranée Métropole mène une politique de mise en accessibilité de l'ensemble de son réseau de transport en commun. Un travail de fond et de longue haleine réalisé en partenariat avec le comité de liaison et de coordination des personnes handicapées. Nous apportons nos savoir-faire et étudions plan par plan les lignes de tramway ou bus à aménager avec la TAM et la métropole afin que tous les handicaps soient pris en compte. Depuis des années, cette coopération a démontré son efficacité sur le terrain, témoigne Gilles Grange, administrateur de ce comité présidé par Jocelyne Roche qui regroupe une soixantaine d'associations représentant tous les types de handicaps. Ces aménagements mis en place pour circuler librement en toute autonomie sur le territoire bénéficient à l'ensemble des habitants, personnes âgées, accidentées, parents avec une poussette, femmes enceintes ou encore touristes.
10 ans après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la métropole continue à se mobiliser pour permettre à chacun de se déplacer et faire ainsi le lien entre tous nos concitoyens. Plus qu'une obligation, c'est une question de nécessité, explique Isabelle Dianel, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au transport. Le schéma directeur d'accessibilité, approuvé en 2009, a notamment permis d'équiper tous les bus urbains de planchers bas avec palettes rétractables, d'informations sonores et visuelles embarquées. Même avancée pour le réseau de tramway, un moyen de transport 100% accessible perfectionné à chaque mise en service de nouvelles lignes. Côté aménagement de voirie, 75% des arrêts de bus urbains et 38% des arrêts suburbains ont aujourd'hui été rendus accessibles.
Cette année, des travaux sont programmés sur les lignes 9, Apollo-Gramont, 10, Aiglong-Celle-Neuve, ligne 25, Mosson-Juvignac, 29, Castelnau-Saint-Brest, 32, Garcia-Lorca-Villeneuve-les-Maglones et 37, Place de l'Europe, Castelnau-Lelay. Au total, 8,5 millions d'euros ont ainsi été investis pour l'accessibilité des transports au cours de ces 5 dernières années. Tout n'est pas achevé, précise Régine Hiller, vice-présidente déléguée à l'accessibilité, maire de Cournonsec. En conformité avec l'ordonnance du 26 septembre 2014, nous allons élaborer notre agenda d'accessibilité programmé pour réaliser d'ici 2018 les aménagements urbains manquants. Numérique, la French Tech dévoile sa stratégie. 5 mois après avoir obtenu le label French Tech, Montpellier Méditerranée Métropole et la communauté montpelliéraine du numérique et de l'innovation poursuivent leur travail pour structurer et accompagner l'écosystème local. Réunis au sein du conseil French Tech créé en janvier, ils ont élaboré un plan d'action pour accompagner et amplifier l'essor de la filière.
Le 12 novembre dernier, une centaine de chefs d'entreprise du numérique étaient réunis au siège de la métropole pour l'annonce de la labellisation French Tech du territoire. À cette occasion, Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, s'est engagé à construire avec eux une stratégie commune afin de leur permettre de se développer et d'accéder à de nouveaux marchés à l'international. Dès janvier, le Conseil French Tech a été créé à l'initiative de la Métropole, une institution rassemblant tous les secteurs de la filière, entreprises, start-up, PME, grands comptes, les financeurs, BPI, Caisse des dépôts, Soridec, Sophie Larro, des organismes de formation et d'accompagnement, l'Université de Montpellier bien sûr, Epitech, Business and Innovation Center, et des instances publiques, directes, Région Languedoc-Roussillon, Montpellier Méditerranée Métropole, chargées de définir, concevoir et mettre en place un plan d'action.
Ces derniers mois, les 7 groupes de travail du Conseil French Tech ont planché pour élaborer un plan d'action. Pour Pierre Billet, délégué au développement régional du groupe La Poste, l'enjeu est de montrer que l'on est capable de faire ce que l'on a dit lors de notre candidature à la French Tech. Pour conserver et renforcer cette dynamique d'acteurs, cela passe notamment par plus d'interactions entre les grands groupes et les startups locales. De son côté, Pierre Alzingre, fondateur de Visionary, une agence de conseil en marketing, insiste sur l'idée que nous devons rechercher les meilleures solutions pour identifier, attirer et garder les talents sur notre territoire. Il faut aussi faire rayonner cet esprit French Tech en y intégrant le grand public. De nombreuses initiatives au programme avec un seul objectif en ligne de mire, faire grandir le secteur local du numérique.
Quelques-uns des objectifs de la French Tech Montpellier-Rennes en 2015. Identifier tout d'abord les start-up locales pouvant bénéficier du Pass French Tech. La métropole a été désignée comme opérateur régional du Pass French. Destiné aux entreprises en très forte croissance, ce dispositif leur offre un accès prioritaire et simplifié à des services d'accompagnement.
Autre objectif, organiser plusieurs rencontres en mai-juin entre les grands groupes et des start-up où ces dernières apportent des solutions aux problèmes d'innovation technologique des premières. Créer un événement grand public en juin à Montpellier, la route de l'entreprise pour développer la culture de l'entrepreneuriat. Enfin, faire du DigiWorld Summit du 17 au 19 novembre, un événement international phare.
Retrouvez le contenu complet du plan d'action de la French Tech pour 2015 sur montpellier-frenchtech.com.
Santé, ils sont de retour. Depuis quelques années, le moustique tigre a élu domicile sur le territoire de la métropole et sa population continue de croître aux côtés de ses autres congénères, cependant moins redoutables. Le tigre est un insecte nuisible, transmetteur potentiel de maladies, colonisant les zones habitées et contre lequel il n'existe pas de remède miracle, hormis une mobilisation humaine pour limiter sa prolifération. À partir d'avril, il reprend du service. Une piqûre de rappel s'impose.
L'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre, est un insecte extrêmement invasif, originaire des forêts humides d'Asie du Sud-Est, qui a colonisé tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Sa présence dans l'Hérault a été détectée en 2009, puis 2 ans plus tard à Montpellier et dans la métropole.
Contrairement aux moustiques vivant principalement dans les zones humides littorales, le moustique tigre évolue en milieu urbain et au contact de l'homme qui lui offre le gîte et le couvert, explique Grégory Lambert, entomologiste à l'entente interdépartementale de démoustication Méditerranée. L'opérateur public chargé de la lutte contre les moustiques dans le sud de la France, son rayon d'action est limité si bien qu'il vit et se nourrit dans un petit périmètre. Le moustique tigre a besoin d'humidité pour survivre et les maisons individuelles avec des jardins possèdent de multiples sources d'eau potentielle. Il se distingue de ses congénères par sa capacité à transmettre à l'homme des maladies virales comme la dengue ou le chikungunya. Limiter son développement sur le territoire de la métropole est donc une question de santé publique. Et cela passe par une mobilisation citoyenne, insiste Caroline Navarre, conseillère métropolitaine déléguée à la prévention santé.
Aucun remède n'existe actuellement pour repousser définitivement ce petit envahisseur. Pour freiner sa progression, une seule alternative est possible, faire la chasse aux points d'eau à domicile. Les adultes commencent à piquer en mai jusqu'en octobre, mais leurs larves sont présentes dans les jardins dès le mois d'avril. Il est donc essentiel d'agir dès maintenant chez soi, car chaque femelle pond environ 200 œufs qui, au contact de l'eau, se transforment en larves, détaille Grégory Lambert. Nous conseillons donc aux particuliers de faire le tour des jardins une fois par semaine et de vider tous les récipients pouvant contenir de l'eau et ensuite de les retourner. Pour éviter les piqûres, le port de vêtements longs et amples, l'installation de moustiquaires et l'utilisation de répulsifs sont recommandés. Des gestes simples, rapides et d'une efficacité redoutable s'ils sont répétés. Il est temps de mettre au sec les moustiques tigres.
Pour en savoir plus et pour toute demande d'information ou d'intervention, vous pouvez contacter l'entente interdépartementale de démoustication Méditerranée au 0825 399 110 ou par le biais de leur site internet eid-med.org.
Le saviez-vous? Contrairement aux idées reçues, c'est l'homme qui contamine au départ le moustique tigre. Après un séjour dans une zone à risque comme les Antilles, l'Afrique ou l'Asie, les personnes infectées par un virus ou une maladie transmettent leur pathologie à l'insecte au moment de la piqûre. Ce dernier contamine ensuite à son tour ses prochaines victimes humaines.
La recherche à la rescousse. Pour les scientifiques, l'éradication totale de l'espèce n'est pas envisageable. Il ne s'agit pas de la faire disparaître, mais de limiter la gêne qu'elle occasionne à un seuil tolérable, précise Frédéric Simard, directeur de l'unité de recherche MIVEGEC à l'IRD. Face à ce redoutable insecte, les chercheurs ne sont pas dépourvus de moyens. Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude au sein de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD de Montpellier, spécialisé dans les maladies infectieuses. Des travaux sont menés pour mettre au point de nouveaux insecticides contenant des régulateurs de croissance afin de neutraliser les larves. Ils permettraient de cibler uniquement l'espèce concernée sans nuire aux autres insectes environnants comme les papillons ou les abeilles, précise Frédéric Simard. Le projet le plus abouti actuellement est la production en masse de mâles stérilisés pour venir perturber la reproduction de l'espèce. Cette technique sera prochainement testée à La Réunion, une région particulièrement touchée par le moustique tigre.
Alors, quelques recommandations à votre domicile, surtout supprimer les eaux stagnantes. Jardinières et pots de fleurs, eh bien vous optez pour un arrosage raisonné.
Ranger le matériel de jardin ou les jouets pour éviter qu'ils se remplissent d'eau de pluie.
Pour les seaux, les vases et les soucoupes sous les pots de fleurs, il faut les vider une fois par semaine ou remplacer l'eau des soucoupes par du sable humide.
Les piscines, entretenir et bâcher, évacuer les eaux stagnantes.
Pour les réserves d'eau, il faut couvrir avec une moustiquaire ou un autre tissu.
Entretenir régulièrement les gouttières et les rigoles pour le bon écoulement des eaux.
Et puis pour les bassins d'agrément, eh bien y introduire si possible des poissons rouges friands de larves.